prendre et de le mettre aussi en relation avec ce dimanche des rameaux d'une certaine façon. Le lien n'est pas évident, mais j'espère qu'il se trouvera. Nous lisons dans Genèse chapitre 22, les versets 1 à 14. Genèse 22, 1 à 14. Un récit, un épisode de la vie d'Abraham après la naissance de son fils Isaac, selon la promesse de Dieu. Après ces choses, Dieu, nous dit le texte, mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Il répondit « Me voici ». Et Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, le sacrifice, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux. Il vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Puis nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent, tous deux ensemble. Alors Isaac parla à son père. Abraham lui dit « Mon père !» Il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu, le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvra lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel. Il rangea le bois. Il lia son fils Isaac, le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange du Seigneur l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici. » L'ange dit « N'avance pas la main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Il alla prendre le bélier, l'offrir en holocauste à la place de son fils Isaac. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré, le Seigneur pourvoit. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Voici un récit qui ne fait pas dans la demi-mesure. Tout y est force et intensité. Tout, la demande que Dieu fait à Abraham, l'obéissance d'Abraham, la progression vers le moment où il faut aller jusqu'à ce que Dieu demande et le dénouement final. On a beau connaître ce récit, on est remué profondément à chaque fois qu'on l'aborde. Cette histoire va jusqu'au bout, vraiment, jusqu'au bout. Nous avons lu également tout à l'heure le récit des rameaux, de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Lors de cette entrée de Jésus à Jérusalem, nous avons lu, il y a de grands éclats, de vives manifestations extérieures. Mais on le sait, ces vives manifestations ne déboucheront pas vraiment sur des engagements très forts et durables. Alors qu'ici, dans l'histoire d'Abraham, beaucoup de choses se passent dans le silence, sans un mot. Mais ce qui se vit, c'est du solide, c'est du jusqu'au bout. Une histoire de père, une histoire de fils. On retrouve là nos liens les plus forts en ce qui concerne nos relations humaines. Mais comment ne pas voir aussi au miroir de ce récit quelque chose de l'histoire intime de Dieu lui-même ? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nombre d'entre nous, nous connaissons ce verset par cœur, ou plus précisément, nous croyons le connaître. Mais quelle place en nos cœurs pour le mystère de ce qui se vit entre Dieu le Père et Dieu le Fils lorsqu'il est dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique ». Lorsque ce Fils gravit la colline de Golgotha, qu'est-ce qui se vit entre le Père et le Fils ? Dans le cœur du Père, dans le cœur du Fils. Nous entrons dans la Semaine Sainte. Elle nous rappelle que l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ a été une histoire forte, l'histoire d'un amour fort, dense. Et d'Abraham à Jésus-Christ, nous voilà renvoyés à des langages qui ne se font pas dans la demi-mesure, à des langages qui ne se font pas dans la mièvrerie. La question qui nous est posée est aussi celle de notre réponse à l'amour de Dieu. Émotion d'un moment, comme celui de la foule le dimanche des rameaux, ou langage qui a de la consistance, comme celui d'Abraham. L'ambiance du dimanche des rameaux fait partie des choses que l'on aime. Ce jour-là, tout le monde chante. Ce jour-là, tout le monde est saisi de joie. Ce jour-là, tout le monde est saisi d'espérance. La foule est là, et tout cela porte les mouvements de chacun. On a vécu de grandes choses. Toutes les plus belles promesses de Dieu sont dans les cœurs, sont sur les lèvres. On peut s'en donner à cœur joie, sans retenue, sans modération. On chante Jésus, le Sauveur, celui qui vient, celui que l'on aime. C'est bon à vivre. Et Jésus lui-même le reconnaît. À ceux qui demandent de faire taire la foule, il répond que si on les faisait taire, les pierres commenceraient à crier. Et c'est comme ça qu'on aime l'Église, n'est-ce pas ? C'est comme ça qu'on aime la foi. Une Église vivante où on chante, où on reçoit vraiment des tas de choses qui nous portent en avant. Une Église dynamique où tout ce que l'on vit nous booste. Une foi personnelle qui nous apporte satisfaction, renouvellement, joie. On a tous envie de cela et c'est bon à vivre. Mais la Semaine Sainte qui s'ouvre et se termine sur cette note de joie, et il ne faut surtout pas l'atténuer, cette note de joie, parce que le salut, c'est une réalité de joie. La Semaine Sainte qui s'ouvre et qui se termine sur une note de joie est aussi une histoire d'exigence entre les deux. Il y a des moments d'incompréhension, des moments d'angoisse. Il y a une terrible montée sur la colline de Golgotha. Il y a l'heure des ténèbres en plein midi pour Jésus qui est crucifié. Il y a ce corps sans vie qu'on va descendre de la croix. Il y a ces yeux qui avaient tellement donné, qui se trouvent éteints dans la mort. Il y a le silence du tombeau. Et c'est au bout de tout cela seulement qu'à nouveau le chant s'élève. Un chant magnifique, un chant encore plus beau, un chant de victoire. Le chant de l'amour qui est allé jusqu'au bout, le chant de l'espérance qui ne trompe pas. L'histoire d'Abraham suit un cours semblable. Le chant d'abord, l'émerveillement, la naissance d'Isaac, le fils de la promesse. Qu'y a-t-il d'étonnant de la part du Seigneur ? Tout est magnifique désormais, illuminé par cette belle lumière. Et puis, l'heure des ténèbres. Il faut offrir ce fils, le sacrifier. Comment Dieu peut-il demander cela ? Comment peut-il laisser aller les choses aussi loin pour le Père ? Pour le Fils, nous voyons que c'est à la toute dernière extrémité que l'intervention se fait. C'est dur, c'est choquant. En même temps, il faut reconnaître que tout au long de ce parcours exigeant, une profondeur silencieuse se dessine. Profondeur de confiance d'Abraham, même dans l'incompréhension. Profondeur d'obéissance d'Abraham, même dans la perplexité. Profondeur de loyauté jusqu'au bout des limites. Profondeur dans le don qui coûte plus que tout. Et c'est au bout de ce chemin qu'ouvre la lumière, la joie, la profondeur des retrouvailles entre le Père et le Fils, la profondeur de ce qui se partage entre Dieu et Abraham. La lumière enfin sur tout ce qui était tellement confus. Et une sorte de bénédiction renouvelée comme un feu d'artifice qui envoie des couleurs très loin dans l'espace et le temps. Suivons donc quelques étapes de ce récit autour du thème de l'exigence de ce parcours, avec éventuellement aussi en mémoire la question que nous discuterons ensemble tout à l'heure, mais qu'est-ce qui nous fait grandir ? Un mot d'abord sur la demande de Dieu, Abraham. Son contenu est terrifiant. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va au pays de Morila, de Morija, et offre-le en sacrifice sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. C'est terrifiant. À des millénaires de distance, on est saisi, on en tremble. Mais le récit ne nous laisse pas avec cette seule demande. Il nous en donne aussi le sens. Il s'agit là, nous est-il dit, d'une mise à l'épreuve. Une mise à l'épreuve. Comment comprendre l'expression ? Épreuve ici ne veut pas dire simplement terrible difficulté. Alors c'est vrai que c'est une terrible difficulté qui est imposée à Abraham. Mais dans le mot épreuve, il y a aussi l'idée de quelque chose dont on peut faire la preuve. Abraham, au travers de ce que Dieu lui demande, à l'occasion où il lui est demandé de faire la preuve de quelque chose. Dieu ici fait plus que de tester Abraham pour savoir ce dont il était capable. Mais Dieu amène Abraham sur un chemin exigeant, mais où il peut faire la preuve de quelque chose qu'il porte en lui. Et on est ici dans une perspective relationnelle. Il y a un test, bien sûr, si l'on veut, mais le but est un test, est un but relationnel. Abraham va manifester quelque chose à l'égard de Dieu. Il va manifester une attitude à l'égard de Dieu, un amour pour Dieu, et ceci jusqu'à un point qu'il n'a jamais atteint, des choses qu'il n'a jamais exprimées encore jusque-là. Ça va le grandir, ça va l'amener plus loin. Il y aura du nouveau pour lui, par son obéissance concrète, par ses actes, par toute cette expérience, il ira plus loin avec son Dieu. Après l'événement, on voit le Seigneur qui dit « Maintenant, je sais que tu crains Dieu, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Dieu dit « Je sais maintenant. » Qu'est-ce que ça veut dire cela ? Est-ce que Dieu ne savait pas à l'avance tout ce qui était dans le cœur d'Abraham ? Dieu sonde nos reins et nos cœurs, il connaît tout de nous, il savait absolument ce qui était dans le cœur d'Abraham, son amour pour lui, cette loyauté. Lorsque Dieu dit « Maintenant, je sais », cela veut dire qu'à certains moments, même si Dieu sait tout ce qui est dans notre cœur, à certains moments, il n'y a que nos actes qui parlent véritablement. Il n'y a que nos actes qui parlent d'une manière pleine, entière et totale. Certes, Dieu sonde nos reins et nos cœurs. Dieu sait très bien ce que nous ferions en telle situation. Sans même nous y placer, il sait ce que nous ferions parce qu'il nous connaît parfaitement. Mais ce n'est pas du tout la même chose que d'avoir une affirmation de principe qui dit « parce que je te connais, je sais ce que tu ferais si je te le demandais ». Et ce n'est pas du tout pareil de dire ça que de dire une affirmation de fait. Là, parce que tu l'as fait, je sais vraiment que tu m'aimes. Vous voyez la différence entre les deux ? Entre une affirmation de principe et une affirmation de fait, entre les deux, la différence, c'est qu'il y a eu le poids des actes. Le poids des actes. Les actes donnent une densité irrévocable à ce qui a été posé. Ils permettent aussi un véritable vis-à-vis entre Dieu et nous. Si Dieu avait simplement dit à Abraham, « Je sais ce que tu as dans le cœur, je sais que tu l'aurais fait », ça c'est juste à ce moment-là une parole de Dieu sur Abraham. Abraham reçoit cette parole comme une affirmation sur lui-même. Quand Dieu dit « Je sais que tu l'as fait, maintenant je sais que tu l'as fait », ça donne une consistance à Abraham. Il existe en face du Seigneur. Et le Seigneur reconnaît « Oui, tu l'as fait ». Et Abraham peut dire « Avec ta force, je l'ai fait ». Il est sujet devant Dieu. Il a cette joie de pouvoir exister comme une personne. Et Dieu a cette joie aussi de pouvoir dire d'Abraham, oui, tu l'as fait, de le traiter aussi comme personne, comme vis-à-vis. Le poids des actes, nos actes comptent, ils sont un langage fort. Et je crois que ce récit nous dit que Dieu aime ce qui se dit avec la densité des actes. Dieu aime ce qui se dit avec la densité des actes. Et je propose que nous gardions cela en vue pour notre marche avec Dieu chacun. C'est bien de dire au fond du cœur, du fond de notre cœur, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Ou de dire, Seigneur, je suis à toi, je veux être à toi tout entier. Et Dieu accepte vraiment ces expressions de sincérité, ces déclarations d'intention. Mais ne limitons pas notre foi à ces déclarations-là. Dieu aime ce qui se dit avec la densité des actes. Et Dieu aime toute la relation forte qui est rendue possible lorsque les actes sont posés. Abraham n'a pas eu ce luxe que nous avons de temps en temps de pouvoir nous dire que nous nous engageons simplement avec des mots sans avoir à le démontrer avec des actes. Abraham a dû le faire. Et c'est vraiment par le langage des actes que Dieu veut nous faire grandir devant lui. Ceci dit, quelle demande dans ce récit. Je ne sais pas comment vous lisez ce texte. Moi, quand je le lis, je vous avoue, j'ai peur. Ça me fait peur, ce texte. Instinctivement, j'ai peur. Dieu demande un acte terrifiant. Dieu demande un acte inhumain. Un acte déchirant, il le sait, il le dit. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Un acte en plus incompréhensible, qui brouille tout ce que Dieu avait fait jusque-là. Isaac était le fils promis par Dieu à Abraham, le fils né par miracle, à l'initiative de Dieu. Ce n'est pas Abraham qui avait demandé à avoir un fils, c'est Dieu qui lui avait dit « je te donne un fils ». Et maintenant qu'Abraham a persévéré dans la foi pour attendre ce fils, maintenant qu'il l'a reçu ce fils, maintenant qu'il s'est attaché à ce fils, tout est repris, et de cette manière en plus. Ça fait peur. Ça donne l'image d'un Dieu arbitraire. Il joue avec nous, vous savez, comme un chat qui a attrapé une souris, là, qui fait tout ce qu'il veut avec, et la souris est dans les pattes du chat, et elle ne peut rien faire entre ses pattes-là. Lorsque nous lisons ce récit, nous pouvons nous laisser saisir par cela, mais ce récit doit être absolument reçu dans sa totalité. Dans sa totalité, c'est-à-dire avec la clé du début. Dieu met Abraham à l'épreuve. Dieu lui donne l'occasion de faire ses preuves d'une manière nouvelle. Mais dans sa totalité aussi avec l'enseignement de la fin. Car que dit la fin ? La fin dit que Dieu refuse le sacrifice humain. L'enseignement de ce texte est que Dieu refuse le sacrifice humain. Autrement dit, la caricature qui dit que Dieu exigerait des sacrifices humains, cette caricature, elle est suscitée dans l'histoire d'Abraham, en effet, mais pour être refusée, claire et nette, rejetée. C'est cela l'enseignement du texte. Ce qui veut dire aussi qu'en Israël, lorsqu'on offrait un sacrifice, lorsqu'on pouvait offrir un animal comme sacrifice, et en sachant qu'il y avait d'autres peuples où, pour aller jusqu'au bout de s'obtenir les faveurs de Dieu, on était prêt jusqu'à aller offrir des humains. Ça s'est fait. Certains peuples pensaient que pour s'obtenir les faveurs de Dieu, il faut faire quelque chose de terrible comme cela. En Israël, qu'est-ce qu'on pouvait dire? On pouvait penser à cette histoire d'Abraham, d'Isaac, et de dire non, le Seigneur ne veut pas de cela. Et au contraire, le Seigneur a pourvu à autre chose. Et c'est la conclusion de ce récit. Le Seigneur pourvoit. Le Seigneur a donné un substitut. Et on peut savoir cela véritablement. Dieu a voulu qu'Abraham, le père des croyants, traverse une telle situation pour que d'autres, après lui, puissent s'appuyer sur ce qui s'était passé. Et se souvenir que si peut-être on a l'impression que Dieu est ce Dieu-là qu'évoque la caricature que nous avons, qui vient à l'esprit au début du récit, si Dieu semble être ce Dieu-là au début, ce n'est pas cela du tout qui le représente. Ceci dit, pour Abraham, la montagne que Dieu l'invitait à gravir était redoutable. Mais quelle réponse superbe d'Abraham à cette exigence placée devant lui. Étape après étape, ses actes montrent une obéissance, un amour pour Dieu absolument remarquable. Alors c'est sûr qu'Abraham ne comprend rien du tout à ce que Dieu lui demande. Quelle voie choisit-il alors qu'il ne comprend pas? La voie qu'il choisit, c'est la voie de l'obéissance. Abraham ne comprend pas ce que Dieu lui demande, pourquoi, ce qui va se passer, mais il choisit de se mettre dans la ligne de l'obéissance. Il ne sait pas où ça va le conduire, mais il se met dans cette ligne-là, la ligne de l'obéissance. Ce n'était pas de la résignation, comme s'il ne pouvait rien faire d'autre. C'est une attitude choisie. Il attend que sur ce chemin-là, Dieu montre ce qu'il veut, Dieu montre ce qu'il va faire. Et je crois que c'est la bonne clé pour nous aussi, pour découvrir ce que Dieu veut de nous, pour découvrir ce que Dieu veut pour notre vie. Il n'y a qu'un chemin où nous pouvons le faire. C'est le chemin de l'obéissance. C'est en nous mettant dans la ligne de l'obéissance à ce que nous savons de Dieu que nous pourrons découvrir ce que Dieu veut vraiment de nous concrètement sur le détail de ce que nous avons à vivre. C'est là qu'on trouve ce que Dieu veut pour nous. Si on passe à côté sur d'autres chemins, il y a la révolte, il y a le refus, il y a la fuite, toutes ces choses-là, c'est possible. Sur ces chemins-là, il n'y a rien à découvrir de la part de Dieu. Par contre, sur les chemins de l'obéissance, là, on peut découvrir ses ressources pour nous. Comment se manifeste cette obéissance chez Abraham? On note d'abord que son obéissance est rapide. Dieu lui fait cette demande, nous est-il dit, et Abraham, verset 3, Abraham se leva de bon matin. Il n'a pas mis de délai. Il n'a pas traîné en espérant que Dieu changerait sa demande. Il affronte sans remettre à plus tard. Je crois que l'idée de reporter à plus tard quelque chose de difficile, ça fait partie certainement des pièges dans lesquels nous tombons facilement lorsqu'il s'agit de parler par nos actes. On nous demande de faire quelque chose d'exigeant, de difficile. Oui, plus tard, oui, plus tard, oui, mais plus tard. On met du délai. Et on se console ainsi en disant, on le fera. Abraham, lui, se met au concret, sans délai, malgré la difficulté. Et Jésus, lors de sa passion, agira de même. Lorsqu'il est âgé de ses manées, à un moment donné, il dit, levons-nous. Ça veut dire, il affronte. Et il sait ce qu'il doit affronter. Une obéissance donc rapide. Deuxième aspect, c'est que son obéissance est consciencieuse. Abraham prend avec lui tout ce dont il a besoin pour accomplir ce qui lui est demandé. Son âne, ses serviteurs, le bois, le feu, le couteau même, nous dit le texte. Il a pu oublier finalement ces choses-là en disant après, ah désolé, j'arrive pas, j'ai pas pris ce qu'il fallait. Abraham prend tout ce qui est nécessaire à aller jusqu'au bout de l'obéissance. Même le feu, vous rendez compte. Avec un détail surprenant au verset 3, il semble d'abord sceller sa monture et ensuite seulement couper le bois pour l'Holocauste. Autrement dit, on fait tout ce qu'il faut pour partir, on se dit « Ah, il faut prendre encore le bois ». C'est étonnant. Est-ce que c'est le signe d'une confusion intérieure? Est-ce que c'est peut-être le fait de devoir remettre à plus tard ce qui est le plus difficile, prendre le bois pour l'Holocauste, vous rendez compte, pour brûler son fils? Abraham n'était pas un homme de marbre, nous dit peut-être cette notation. Il avait vraiment de vrais états d'âme, de père. Il s'est engagé sur ce chemin difficile sans négliger l'obéissance, mais ce n'était pas évident du tout pour lui. Demandons à Dieu aussi la grâce de savoir obéir jusque dans les détails, comme Abraham le fait ici. Son obéissance aussi, troisièmement, est ferme. Le lieu fixé par Dieu était environ à 60 km, 3 jours de marche pour l'atteindre. Mais ça veut dire aussi 3 jours où à chaque pas, il faut réaffirmer sa détermination. Et on imagine la tentation de dire, plutôt que d'aller vers la montagne ici, qui est devant, je pars à droite, à gauche, je prends un autre chemin. C'est évident. Ou la tentation de dire, on s'arrête, on laisse tomber. On sait aussi que plus Abraham avance, plus l'échéance se fait proche, inéluctable, angoissante. Quand on est loin, on se dit, il y a encore du temps. Et puis on approche, et ça devient de plus en plus angoissant certainement. Mais Abraham reste ferme. Et ici encore, nous pouvons faire le parallèle avec notre Seigneur Jésus. Lui aussi a eu la même détermination tout au long de son chemin sur la passion. Sa route a duré même plus que 3 jours. Tout au long de son ministère, il savait pour quelle heure il était venu. Et il a continué, jusqu'à cette heure qui se rapprochait. Et il n'a pas fléchi. Son obéissance aussi était ferme. Son obéissance, quatrièmement, était solitaire. Une obéissance solitaire. Abraham seul, c'est le but de cette marche. Il ne peut en parler à personne, ni à ses compagnons, ni à Isaac. Il doit porter ça vraiment tout seul. Et quand il se retrouve juste avec Isaac pour la dernière étape, la solitude du père devient insoutenable. Et le récit nous montre chaque geste plein d'intensité. Abraham qui charge le bois sur Isaac, son fils, mais vous imaginez ce que ça veut dire, faire ça en sachant ce qui était devant. Il prend lui-même le feu, le couteau, la marche silencieuse. Qu'est-ce qu'on peut dire quand on avance comme ça? Et puis la voix d'Isaac, avec cette question ingénue, mais père, où est l'agneau pour le sacrifice? Et il faut répondre à ça. Il faut répondre à ça. Abraham est seul. Solitude terrible, tout au long. Jésus aussi a connu cette solitude le dimanche des rameaux. Tout le monde est en train de chanter, d'acclamer, de faire la fête autour de lui. Et lui, il sait ce qu'il va vivre. Il sait qu'il va être rejeté à Jérusalem. Il sait que la croix est devant lui. Et Jésus même pleure sur Jérusalem. Pas sur lui, mais pleure sur Jérusalem. Il était décalé aussi. Il avait son chemin à faire, à parcourir. Et peut-être que ce matin, parmi nous, même quelqu'un se sent comme cela, décalé. Décalé avec quelque chose que seul on connaît, qu'on porte seul au fond de soi. On chante autour, oui, mais moi j'ai à vivre cela. Ça nous arrive d'être décalé comme cela, d'être seul. Dieu sait. Dieu sait. Dieu voit. Et si vous essayez, dans cette solitude qui est la vôtre, de marcher dans la fidélité, c'est un langage qui compte pour Dieu. C'est un langage qui compte pour Dieu, sachez-le, qui compte immensément pour le Seigneur. Une obéissance solitaire. Point suivant, son obéissance s'accroche à la foi. Nous savons très peu de ce qu'Abraham a pu traverser pendant ces heures terribles. Mais les quelques paroles qu'il prononce montrent qu'il essaye, avec les moyens qui sont les siens, il essaye de garder le cap de la confiance en Dieu. Quelles sont les deux paroles qu'on a d'Abraham ? Première parole, c'est « nous reviendrons ». Quand il laisse ses serviteurs, il dit « nous reviendrons ». Et la deuxième parole, c'est sa parole à Isaac qui dit « Dieu pourvoira ». Alors, ça ne veut pas dire qu'Abraham a anticipé le scénario final. Hein. Nous, quand on lit l'histoire en connaissant la fin, on a toujours l'impression qu'eux aussi connaissaient tout. Non. Il n'a pas anticipé la fin, mais on va dire qu'il a essayé d'ordonner ce qu'il vivait, ce qui le traversait pour garder un cap de confiance. Qu'est-ce qui pouvait l'aider? Il savait qu'Isaac était le fils de la promesse. Il savait que Dieu lui avait donné ce fils de la promesse. Et Dieu aussi, peu de temps avant, avait précisé à Abraham que c'est vraiment par Isaac qu'il aurait une postérité. C'est au moment où il faut rejeter, il faut renvoyer Ismaël au chapitre précédent, chapitre 21, verset 12. Et Dieu lui dit, c'est par Isaac que tu auras une postérité. Ça veut dire que Dieu doit bien faire quelque chose à un moment ou à un autre pour qu'on s'en sorte, si c'est par Isaac. Il y aura la postérité. Dieu réalisera certainement cette promesse. Comment, on ne le sait pas. Dieu avait réalisé la promesse de la naissance aussi. Voilà les éléments qu'Abraham a entre les mains. Il doit essayer avec cela de faire son chemin, d'imaginer ce qui peut se passer. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'Abraham, sur la base des promesses reçues, estimait que Dieu avait même le pouvoir de réveiller un mort. Hébreux 11, verset 19. Ça veut dire que certainement, parmi les hypothèses qu'Abraham a dû faire dans cette circonstance, en disant, si je dois aller jusqu'au bout, si je dois offrir Isaac, comme Dieu a fait la promesse, il doit être capable de le ressusciter. Abraham n'a pas de certitude sur la façon dont Dieu va se sortir de cette histoire en quelque sorte, mais il s'accroche à ce qu'il sait de Dieu. Il n'a aucune parole pour l'assurer que Dieu va intervenir, ni à quel moment ça va se faire, ni comment, mais il s'accroche à ce qu'il comprend de Dieu, à ce qu'il connaît de Dieu. Probablement se fait-il plusieurs hypothèses, et peut-être qu'il n'arrête pas tout au long de faire telle hypothèse sur ce que Dieu peut faire. Et je crois que parfois, notre foi aussi se réduit à cela. Attendre, persévérer, sans savoir forcément la manière ou le moment dont Dieu agira. On se fait parfois des hypothèses avec ce qu'on sait de Dieu, mais rester ouvert en restant aussi fondé sur ce que l'on connaît de Dieu. Mais Abraham garde cette visée de confiance et s'accroche à ce cap. Son obéissance, enfin, ira jusqu'au bout. Son obéissance va jusqu'au bout. Ce cap de confiance, il faudra le tenir jusqu'au bout de l'obéissance. C'est terrible de penser à ce qu'Abraham a vécu là. Et c'est sûr que chaque étape qui le rapproche de l'échéance ultime devient de plus en plus dure. À chaque fois, la pression monte d'un cran pour continuer à faire confiance. Pour continuer à faire confiance. 3 jours avant, il pouvait se dire, peut-être Dieu va m'arrêter à mi-chemin. Mais là, plus ça avance, comment faire ? Mais à chaque étape, Abraham fait encore confiance. Il fait l'étape, le pas de l'obéissance, là où il est, avec ce qu'il lui est demandé. Et il ira jusqu'au moment où il mettra son fils sur l'autel qu'il a construit, prend le couteau. Je me suis demandé ce qu'il a dit à Isaac. Je suis sûr qu'il lui a parlé de confiance, de promesses de Dieu, de ça, mais enfin, c'est terrible de penser à cela. Et il dira ainsi à Dieu une qualité d'amour, une qualité de loyauté, une qualité de foi, comme il ne l'avait jamais fait jusque-là. Abraham ira jusqu'au bout. Alors il ne s'agit pas, en lisant ce texte, de faire en soi l'éloge du jusqu'au boutisme systématique. Ce texte ne nous dit pas que systématiquement Dieu nous demandera d'aller jusqu'à l'extrême et l'extrême de l'extrême et l'extrême de l'extrême de l'extrême. C'est pas cela, je crois pas que ce texte nous dise cela. Ce qu'il vaut mieux remarquer, c'est que par ce chemin terriblement exigeant, Abraham a exprimé à Dieu des choses qu'il n'aurait jamais exprimées autrement. Il a également expérimenté une délivrance comme il n'aurait jamais connue autrement. Il est reparti aussi avec des certitudes quant à la fidélité de Dieu, jusque dans les situations les plus extrêmes, des certitudes qu'il n'aurait jamais eues autrement. Et il a la joie, lui qui a tant reçu de son Dieu, d'avoir pu lui dire aussi en retour quelque chose de fort. Il y a entre lui et Dieu désormais quelque chose de fort qui s'est passé, qui s'est noué, qui les lie de manière unique désormais. Alors je ne nous souhaite à aucun d'entre nous de devoir passer par de telles situations d'extrémité. Par contre, je nous souhaite à chacun d'entre nous d'être prêt à affronter avec fermeté, avec loyauté, certaines situations exigeantes que nous pouvons connaître. D'être prêt à relever peut-être certains défis qui sont devant nous, d'avoir le courage de certains efforts, de certaines loyautés, de certaines fidélités. Car il y en a des approfondissements à vivre dans ce langage des actes et des fidélités concrètes, même si cela coûte. Un dernier mot. Nous avons évoqué tout au long de notre parcours l'image de Jésus. Et à lui, la semaine sainte dans laquelle nous entrons. Et ce récit est aussi un miroir de la croix, bien sûr. Et nous pouvons également le lire comme tel. Souvenons-nous de Jésus portant sa croix. Jésus porte sa croix, tout comme Isaac portait le bois sur son épaule. Pensons aussi au sentiment du Père céleste alors que Jésus porte sa croix. En relation avec cette histoire d'Abraham et d'Isaac, Le Père qui avait dit au début du ministère de Jésus, celui-ci est mon Fils, mon unique, en lui je mets toute ma joie. La croix a été aussi une souffrance pour le Père quand il donne son Fils, son unique. Quand son Fils, son unique souffre, le Père souffre aussi. Quand son Fils, son unique est abandonné parce qu'il porte sur lui le poids de notre condamnation. Dans ce silence, dans cet abandon du Fils, le Père souffre aussi, le Fils également. Dieu est tout entier dans le salut qu'il nous a donné. Dieu se donne tout entier dans ce salut, dans l'œuvre de la croix. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est Dieu Père, Fils et Saint-Esprit qui s'est impliqué, qui a souffert pour notre salut. Et puis, imaginons Jésus méditant ce passage au cours de son ministère terrestre. Jésus, lui, sait que, en ce qui le concerne, personne ne le remplacera à l'heure dernière. Jésus le sait très bien. Pendant toutes ces années de ministère, les possibilités d'échappatoire sont multiples pour Jésus. Les tentations aussi, le diable a essayé de lui donner des solutions de facilité par rapport à la croix, c'est un des grands sens de la tentation du début de son ministère. Et Jésus garde le cap, par amour pour son Père, par amour pour chacun de nous aussi. La croix ne nous parle pas seulement de grâce, elle nous parle aussi de l'exigence de la grâce. Dieu le premier a prouvé son amour au prix d'un langage fort. Ce langage, nous pouvons le recevoir pour nous. Il nous dit vraiment combien nous comptons pour Dieu. Il nous dit vraiment que nous pouvons compter sur son amour qui n'est pas juste un amour en parole. Avec un tel gage, nous pouvons marcher confiants vraiment, sûrs de son amour. Si Dieu n'a pas épargné son Fils, son unique pour nous, pouvons-nous douter de lui ? Pouvons-nous douter de son amour ? Mais sachant cela, aspirons aussi à une marche avec Dieu où nous donnons du prix à notre attachement au Seigneur, à la loyauté envers le Seigneur, à une marche où nos actes disent aussi, à notre mesure et dans ce qui nous est demandé, notre amour pour le Seigneur. N'aimons pas en parole après avoir été tant aimés, mais aimons en action et en vérité. Amen.